L'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Vous avez la parole sur RFI jusqu'à 9h temps universel. Dans une demi-heure, nous lancerons notre débat sur la reprise des pourparlers inter-burundais, sur ses chances de faire avancer les choses là-bas. Sachant que le Sénared n'est pas à Arusha, la coalition de l'opposition n'a pas été invitée en tant que telle. Ses partis membres l'ont été, mais la grande majorité ont décidé de boycotter le rendez-vous. Vous pouvez encore nous appeler si vous voulez participer, de donner votre avis au 33 9 693 693 70, nous contacter par mail à appel@actu.rfi.fr et enfin les pages Facebook et Twitter de l'émission. Avant cela, vos questions sur l'actualité. On va parler du processus de paix dans le nord du Mali, de la politique américaine à l'approche de la présidentielle, mais d'abord de l'affaire des bombardements de Boaké avec Sédou qui nous appelle justement de Boaké en Côte d'Ivoire. Bonjour Sédou.
Oui, bonjour Marie.
On écoute vos questions Sédou.
Dans l'affaire des bombardements de Boaké, la juge met en cause trois anciens ministres, Michel Alliot-Marie, Michel Barnier et Dominique de Villepin. Dès lors, que les reproche-t-elle? Que risquent ces trois ministres?
Alors en effet, c'est d'où la juge en charge de cette affaire en France voudrait que ces trois ministres de Jacques Chirac soient renvoyés devant la justice pour être jugés. Et elle l'a fait savoir en février dernier. Bonjour Anthony Latier.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors vous avez enquêté sur cette affaire de Boaké. Vos reportages d'ailleurs sont toujours en ligne sur notre site RFI.fr. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler un petit peu en quoi consiste cette affaire?
Eh bien donc il s'agit du bombardement de Boaké, le bombardement d'un camp français à Boaké en Côte d'Ivoire par l'armée ivoirienne. C'était le 6 novembre 2004. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire est coupée en deux, les rebelles au nord et l'armée loyaliste au sud. Et au milieu, une zone d'interposition où patrouillent les soldats français et l'ONU. C'est là où se trouve Boaké. Quelques jours avant ce bombardement, le président ivoirien, Laurent Gbagbo, décide de lancer une offensive pour reprendre le contrôle du nord du pays. Deux avions commencent à bombarder la région de Boaké et le 6, au lieu de frapper des positions rebelles, eh bien ces avions lâchent des roquettes sur le camp français de Boaké. 9 soldats français sont tués et un civil américain.
Et en 2005, une enquête est ouverte à Paris pour assassinat et tentative d'assassinat contre des ressortissants français.
Et l'enquête va durer 11 ans. Et en février dernier, la quatrième juge en charge de cette affaire a rendu ses conclusions. RFI a pu les consulter. Et en résumé, Marie, elle reproche à ses anciens ministres français d'avoir tout fait pour empêcher l'arrestation des auteurs du bombardement. Alors, les auteurs, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit des pilotes des deux avions qui ont frappé le camp français. Ils étaient tous les deux biélorusses, sous contrat avec l'armée ivoirienne. Et après le bombardement, donc, ils s'enfuient. Ils parviennent à quitter la Côte d'Ivoire. Ils traversent le Ghana et ils se retrouvent à Lomé, au Togo. Là, ils sont interpellés par les auteurs. Autorité togolaise, elle les soupçonne d'être mêlée au bombardement contre le camp français et les mettent à la disposition de la France. Ça veut dire, venez les chercher, ils sont à votre disposition si vous voulez. Et bien justement, Marie, la France n'en voudra pas. Plusieurs représentants de la France, les services secrets, le représentant du ministère de la Défense, le représentant du ministère de l'Intérieur vont aller voir les pilotes, les identifier, prennent des photos et tous reçoivent le même ordre de Paris. Vous ne faites rien, vous n'arrêtez pas les pilotes.
Et pour en revenir donc à la question de ces 12, ce qui est reproché donc à ces trois ministres, finalement, c'est de n'avoir rien fait.
Voilà, de n'avoir rien fait. Et en fait, quand on sait qu'un crime a été commis contre un ressortissant français, en l'occurrence plusieurs ressortissants français, et qu'on sait où se trouvent des suspects de ce crime, eh bien, il faut agir. Il faut prévenir la justice, il faut saisir le procureur pour qu'il puisse arrêter ces suspects, les interroger. Or là, les ministres n'ont rien fait, c'est le contraire, et ils ont donc soustrait à la justice des suspects d'un assassinat, pour la juge en tout cas. C'est une infraction punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Voilà ce que risquent les ministres.
Et ça, c'est donc l'avis de la juge. Que va-t-il se passer dans les prochains mois, Anthony ?
D'abord, le procureur doit donner son avis sur ses conclusions de la juge. Si l'avis est positif, la juge va demander le renvoi des trois ministres devant la justice. Mais la course d'obstacles ne s'arrêtera pas là, car petite subtilité, Marie, trois ministres pourraient être renvoyés, non pas devant une cour traditionnelle, mais devant la Cour de justice de la République, la CJR. C'est une cour spécialement créée pour des anciens ministres mis en cause pour des faits commis pendant l'exercice de leur mandat. Une commission, la commission des requêtes de la CJR, devra donc donner son avis. Et ensuite seulement, si cet avis est positif, il y aura un procès. Tout cela pourrait prendre plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas précisément. En attendant, la juge, elle étoffe son dossier, elle continue d'auditionner des témoins dans cette affaire.
Merci Anthony Latier de nous avoir rejoint en studio pour répondre aux questions de Cédou, notre auditeur de Bouaquet. Je rappelle que tout votre travail sur cette affaire du bombardement de Bouaquet est à retrouver sur internet, rfi.fr, vos articles et vos reportages. Et puis la vidéo de toutes ces réponses que vous avez donc apportées à notre auditeur, elles sont à retrouver très bientôt sur la page Facebook de l'émission Appel sur l'actualité. Il est 8h16 en temps universel, l'heure d'accueillir un nouvel auditeur. C'est Mohamed qui nous appelle de Bamako, au Mali. Bonjour Mohamed.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
On vous écoute Mohamed.
Alors, dimanche dernier, trois personnes ont été tuées lors des accrochages entre les groupes armés du Nord et l'armée malienne. Ces dernières violences survenues au nord du Mali sont-elles synonymes de l'échec des accords d'Alger ?
C'est Serge Daniel, notre correspondant à Bamako, qui va vous répondre, Mohamed. Bonjour Serge.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut d'abord revenir, Serge, sur les accrochages auxquels Mohamed fait allusion, des accrochages qui ont eu lieu donc il y a un peu plus d'une semaine ?
Oui, il y a eu plusieurs accrochages. Vous avez d'abord eu un groupe d'autodéfense sédentaire qui s'appelle le Ganda Iso, qui a affirmé que l'une de ses positions a été attaquée dans le nord par un autre groupe qui s'appelle le Gatia. Le Gatia, qui est un autre groupe armé pro-gouvernement malien, il y a eu trois morts. Le Gatia, de son côté, a parlé d'opérations militaires de clarification. Vous avez également des accrochages entre... L'armée malienne a repoussé... une attaque attribuée aux djihadistes. Hier, il y a deux jours encore, il y a eu une autre attaque. Hier nuit, dans le nord du Mali, un lieutenant des eaux et forêts a été tué. Effectivement, il y a plusieurs signes de violation de l'accord d'Alger.
Alors, d'où les inquiétudes de notre auditeur, puisque ces accrochages, ils arrivent un an, quasiment jour pour jour, après les accords de paix d'Alger. Est-ce qu'on peut dire que ces accords sont menacés ?
Oui, disons que c'est quand même des coups de canif assez sérieux dans l'application de l'accord d'Alger, parce que en signant l'accord, les ex-belligérants, vous voyez, on les appelle même des ex-belligérants, parce que on est supposé ne plus se battre, ils se sont engagés à respecter scrupuleusement le cessez-le-feu. Mais ce n'est pas synonyme d'un échec total des accords, parce que vous savez, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays, dans des accords de paix signés par des groupes armés, il y a quasiment eu à un moment donné une violation de cessez-le-feu. Il y a des coups de feu, il y a des règlements. L'accord de paix d'Alger, l'accord de paix de réconciliation d'Alger, a prévu ce cas de figure, d'ailleurs, en créant tout un mécanisme pour d'abord empêcher ce genre de situation, et quand on ne peut pas l'empêcher, pour rapidement apaiser les esprits. Mais alors, si ce n'est pas un synonyme d'échec de l'accord, ça retarde quand même, il faut le dire, son application. Et la question de Mohamed permet d'ailleurs de faire rapidement le point. Et globalement, le cessez-le-feu est respecté. Il y a eu des prisonniers libérés de part et d'autre. Vous avez des sites de cantonnement réalisés, des structures commune créée, mais disons-le, il y a deux points sensibles, c'est-à-dire le processus de désarmement et le retour effectif de l'État dans toutes les localités du Nord, notamment Kidal, ce n'est pas du tout effectif. Et si les rebelles disent ceci, si on veut faire vraiment avancer l'accord, il faut mettre en place les autorités intérimaires tout de suite, comme le stipule l'accord. Mmh. Les autorités intérimaires sont composées de représentants du gouvernement, des rebelles, de l'administration, pour gérer pendant un moment certaines collectivités, des collectivités locales du nord du Mali.
Alors, Serge, il y a un suivi, bien sûr, de ces accords d'Alger. Que risquent les parties si elles enfreignent leurs engagements ? Est-ce qu'il y a justement des mesures de rétorsion qui sont prévues dans ces accords ?
C'est l'une des faiblesses de l'accord d'Alger. Alors, il y a des mesures, parce qu'on dit par exemple suspension, interdiction de voyage. Il n'y a pas de réelle mesure, une espèce d'épée de Damoclès, et ça c'est très important, sur la tête des signataires de l'accord d'Alger, pour les punir, pour les contraindre à respecter cet accord. Je pense que c'est l'une des faiblesses de l'accord d'Alger, et que assez vaguement, on a parlé de possibilités d'interdiction de voyage, de sanctions ciblées, mais depuis qu'il y a des violations répétées de tous les groupes de l'accord d'Alger, on n'a jamais levé le tout petit bâton, même pas un bâton, une carotte pour menacer les signataires de l'accord, ce qui fait que les gens se disent « mais non, on va faire ça, il n'y aura rien ».
La peur de l'action, de la sanction, qui parfois peuvent éviter, des débordements. Merci beaucoup, Serge Daniel, d'avoir été en ligne avec nous de Bamako pour répondre à notre auditeur Mohamed, qui nous appelait aussi de la capitale malienne. À la suite d'appels sur l'actualité, avec toujours vos questions et nos experts, nos journalistes pour y répondre, on va accueillir maintenant Ibrahima, qui nous appelle de Montpellier, dans le sud de la France. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Marie.
Alors vous intéressez, Ibrahima, à la politique américaine.
C'est ça, c'est bien ça. J'avais une question à poser sur M. Trump. Donald Trump et Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, se sont rencontrés pour unifier le parti des Républicains. À ce sujet, j'avais deux questions. Est-ce que cette rencontre marque-t-elle un tournant dans la politique de M. Trump? Est-ce que Paul Ryan et Donald Trump ont la même position sur l'Obamacare?
Merci Ibrahima pour vos questions sur donc la politique américaine. Le candidat républicain et le président républicain de la Chambre des représentants se sont en effet rencontrés la semaine dernière, alors qu'effectivement les divisions sont ou étaient très fortes entre les deux hommes. C'est ce que l'on va voir avec Corentin Solin, spécialiste des États-Unis, auteur de l'ouvrage Amérique du Nord entre intégration et fragmentation aux éditions Ellipse. Bonjour Monsieur Solin.
Bonjour Marie, bonjour Ibrahima. Alors, pour répondre à la question d'Ibrahima, incontestablement, cette rencontre du jeudi 12 mai a été un tournant pour la campagne de Trump, car elle unifie un parti républicain qui s'était divisé lors des primaires. Le président, le speaker de la Chambre, le jeune Paul Ryan, qui lui-même a été candidat, on s'en souvient, à la vice-présidence en 2012, avait en effet refusé d'endosser Trump au début du mois de mai, soulignant des différences irréconciliables sur un projet politique. Par exemple, Paul Ryan s'oppose fermement à l'interdiction d'entrée sur le territoire proposée par Trump pour les musulmans non citoyens des États-Unis. À l'issue de leur rencontre du 12 mai, les deux hommes ont publié un communiqué commun qui fait de la lutte contre Hillary Clinton un impératif absolu, surmontant toutes leurs différences. Alors, depuis lors, et pour répondre très précisément à la question d'Ibrahima, Ryan n'a toujours pas endossé Trump, mais en effet, ce dernier a amorcé un tournant dans sa politique, a donné des signes d'apaisement aux conservateurs idéologues comme Ryan. En particulier, Trump a proposé il y a 5 jours une liste de juges conservateurs qui pourraient nommer à la Cour suprême, et cette liste lui a été suggérée par le think tank Heritage Foundation, dont Paul Ryan est un très proche.
Alors, Corentin Solin, c'est vrai que Paul Ryan avait dit qu'il n'était pas prêt à soutenir la candidature de Trump il y a quelques temps. Là, il parle d'un début de rapprochement. Est-ce qu'un jour, vous pouvez imaginer Paul Ryan finalement soutenir le candidat républicain?
Ah, tout à fait. Je pense que c'est l'issue vers laquelle on se dirige. Paul Ryan, il ne faut pas l'oublier, est le patron des représentants républicains à la Chambre. Trump est le nominé. L'un a besoin de l'autre. En effet, à l'automne, tous les représentants républicains sortants devront être réélus. Et donc, ils ont besoin d'un nominé fort, stable. Donc, les deux hommes ont besoin de s'entendre. Par ailleurs, et même si c'est plus anecdotique, Paul Ryan est le co-président de la convention républicaine à venir au mois de juillet. Il a décidé finalement de rester en place, donc tout est en place, tout est prêt pour une grande réunion.
Et est-ce que les divisions, vous parliez de points de vue très différents, notamment sur la politique de l'immigration, est-ce que ces divisions sont assez symptomatiques, symboliques de ce qui se passe au sein du parti républicain?
Ah, tout à fait. En fait, il est clair que Trump a réussi une sorte de hold-up, de prise de pouvoir via les primaires dans le Parti républicain sur une ligne très différente de celle précédemment suivie sur une ligne qu'on peut qualifier de national-populiste, c'est-à-dire avec un rejet d'immigration par exemple, qui est très différent du projet conservateur incarné par Ryan. Cependant, aujourd'hui, je dirais que les contraintes institutionnelles obligent les deux hommes à s'entendre et à mettre de côté leurs différences.
On ne pourrait pas imaginer, hein, lors de cette convention républicaine, un vote des délégués qui irait à l'encontre de la candidature de Trump. Ça ne s'est jamais fait ou là, en tout cas, ce n'est pas envisageable?
Alors, je dirais que ce n'est plus envisageable. Cela a été envisagé un certain temps avec une sorte de mouvement qui est de Never Trump, qui promettait de s'opposer à Trump à la convention. Mais il faut bien comprendre que, par exemple, dans un sondage qui est sorti ce week-end, New York Times, CBS News, 80% des républicains sondés souhaitent l'unité du parti derrière Trump. C'est désormais, j'allais dire que désormais, ce risque de vote à la convention contre Trump est derrière nous.
Est-ce que si Donald Trump n'est pas obligé de faire un geste, de se rapprocher de la position de la direction du parti républicain, puisque finalement, il a besoin aussi de l'argent du parti. Au départ, il disait qu'il allait pouvoir faire la course juste avec ses fonds. C'est d'ailleurs un argument qui avait beaucoup plu aux futurs électeurs. Est-ce que là, il va être obligé un petit peu de s'adoucir pour pouvoir compter sur les finances du parti?
Absolument, et en fait, il a déjà commencé à le faire, et ça me permet de répondre à la deuxième partie de la question d'Ibrahima. Par exemple, sur l'Obamacare, Trump a rejoint complètement la position des conservateurs tels Ryan. Il souhaite abolir, il l'a désormais affirmé depuis le mois de mars, l'Obamacare, et il a rejoint les deux points fondamentaux pour tout conservateur. Il refuse le mandat individuel d'Obamacare qui contraint tout citoyen à acheter une assurance maladie. Et également, Trump renonce à l'obligation faite par Obamacare aux assureurs privés de couvrir les personnes déjà malades. C'est les deux points fondamentaux pour les conservateurs. Et on note sur l'Obamacare, par exemple, Trump s'est déjà aligné sur les conservateurs. Donc, effectivement, afin de séduire les grands milliardaires donateurs du Parti républicain, les grands milliardaires donateurs conservateurs, Trump a déjà commencé une forme d'alignement et sans doute continuera-t-il.
Alors l'Obamacare, ça veut dire que si Trump devenait président des États-Unis, on oublierait totalement cette politique tant souhaitée par Barack Obama, elle serait enterrée?
Ah oui, absolument, oui, oui. Trump, après quelques hésitations en début de campagne, où il était sur une ligne un peu plus, on va dire, populiste, est revenu vraiment aux fondamentaux conservateurs. Il l'a répété à de nombreuses reprises, c'est dans son projet. Il abolira la loi de ACA, c'est-à-dire la loi d'Obamacare, au nom de la liberté des marchés et au nom du refus de l'intervention de l'État dans l'assurance maladie. Et là, on a vraiment, effectivement, un grand point de l'héritage d'Obama qui serait très menacé en cas d'élection de Trump.
Une dernière question rapide, Corentin Selin, pour revenir à l'actualité des États-Unis. Donald Trump a reçu le soutien du lobby des armes. C'est un soutien important, il ne paraît pas très, très étonnant, hein, vu le personnage.
Alors, il n'est pas du tout étonnant, puisqu'on sait que Donald Trump a multiplié pendant les primaires les propositions assez folles pour étendre le droit à porter des armes. C'est un soutien très important. Il faut simplement savoir, par exemple, qu'entre 2005 et 2015, la NRA, le lobby, donc ce principal lobby pour les armes à feu, a levé 85 millions de dollars en 10 ans pour soutenir le droit constitutionnel, désormais depuis l'arrêt Hiller de la Cour suprême, à porter une arme. Donc c'est vraiment un grand poids financier, la NRA, un énorme poids financier, mais il était très logique qu'elle se range derrière Trump, qui a toujours défendu ce droit fondamental et constitutionnel de porter une arme.
Merci beaucoup Corentin Selin pour tous vos éclairages sur la politique américaine, donc à l'approche de cette présidentielle. Et merci d'avoir répondu aux questions d'Ibrahima qui nous appelait de Montpellier dans le sud de la France. Restez avec nous dans un peu moins d'une minute. On fait le point sur l'actualité africaine. On se retrouve ensuite pour notre débat aujourd'hui sur les pourparlers inter-burundais. Des pourparlers qui se passent à Arusha sans le Sénaret, sans la coalition de l'opposition. Le gouvernement refuse toujours de parler avec. On veut avoir votre avis sur l'efficacité ou non de ce dialogue.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.